Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. Ministère des coopératives et des PME continue de transformer les MPME pour les rendre compétitives. Commission électorale générale de Timor Oriental, Timor-Leste, est étonnée par les nombreux experts électoraux indonésiens. Ouverture du Salon aéronautique international de Bali. Salle Waikambas National Park Hall remporte le prix Herman Goldstein. Indonésie n'est pas liée par les idéologies étrangères des pays superpuissances. Ministère du Tourisme et de l'Économie créative promeut la cuisine indonésienne en Chine. Et armée de l'air indonésienne discute de la coopération militaire avec le Timor oriental et Brunei Darussalam. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, PME indonésienne, Teten Masduki, a déclaré que le ministère des coopératives et des PME continue de procéder à la transformation et à la restructuration des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, afin que la contribution des MPME à la croissance économique nationale augmentera et sera compétitive. Lors du lancement mercredi du système d'information sur les postes fonctionnels des développeurs d'entrepreneuriat à Jakarta, Teten a révélé que la majorité des PME en Indonésie appartiennent actuellement à la catégorie des micro-entreprises à faible productivité. Cela est dû à un certain nombre d'obstacles, tels qu'un accès limité au financement, à la technologie et au marché. Pour surmonter ce problème, le ministère des coopératives et des MPME a conçu un certain nombre de programmes et des politiques. L'un d'eux consiste à encourager la naissance de nouveaux entrepreneurs dotés de produits et des modèles commerciaux innovants capables d'être compétitifs sur le marché mondial. En dehors de cela, le gouvernement tente également d'intégrer les MPME dans la chaîne d'approvisionnement mondial, Actuellement, seulement 4,2% des PME indonésiennes sont intégrées dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le président de la Commission électorale générale KPU Timor-Leste, José Agustinho da Costa Belo, est émerveillé par l'Indonésie parce que l'Indonésie compte de nombreux experts électoraux. Il a exprimé le souhait que le Timor-Leste puisse apprendre ces choses positives de l'Indonésie. Selon lui, la présence d'experts est très importante, surtout lorsque surviennent des conflits électoraux. Comme cité par RRI.co.id jeudi 19 septembre, Agostinho, lors de sa visite à l'organe de surveillance des élections Bawaslu de la République d'Indonésie à Jakarta, a souligné mercredi qu'il y a beaucoup de choses que le système judiciaire électoral au Timor oriental, Timor-Leste, devrait imiter l'Indonésie. L'une d'elles est que la justice électorale ne consiste pas seulement à découvrir qui a raison ou tort. Il a transmis, après avoir signé l'accord de coopération avec Bawaslu de la République d'Indonésie, il considère que cette collaboration est le bon moyen d'étudier la justice électorale en Indonésie. Une véritable forme de cette coopération est l'échange des collaborateurs. Agostinho espère que les employés des deux institutions pourront apprendre les uns des autres et dispenser une formation sur la gestion de l'application des lois électorales à mesure que les temps changent. Ministre indonésien coordonnateur des affaires maritimes et de l'investissement Luhut Binsar Panjaitan a inauguré le Bali International Show 2024. Il s'agit du premier événement pour l'Indonésie depuis près de 30 ans dans divers pays. Comme cité par maritime.go.id, cet événement était préparé pour élever le secteur indonésien de l'Europe spatiale et de la défense à un niveau supérieur. Cet agenda rassemble des leaders mondiaux de l'aérospatiale, des géants de la défense, des experts de l'industrie et des innovateurs. Tout le monde s'est réuni à Bali pour présenter les dernières avancées en matière de technologie aéronautique. Luhut à Bali a déclaré mercredi 18 septembre que le Salon aéronautique international de Bali avait montré la résilience de l'Indonésie à rivaliser et à devenir un acteur mondial de premier plan dans l'industrie aérospatiale. Il a également souligné les efforts de l'Indonésie pour tracer un avenir meilleur et plus durable pour le secteur de l'aviation. Luhut Binsar Panjaitan a ajouté que l'amélioration du secteur aérospatial indonésien est très importante pour l'avenir de l'Indonésie. Selon lui, il ne s'agit pas seulement d'une nécessité stratégique, mais le principal moteur de progrès économique et social de la nation indonésienne. Wake Ambas National Park Hall ou bien TNWK Hall a remporté un prix international du Hermann Goldstein Award pour ses efforts de protection de la faune axés sur les problèmes. Sur la base des informations reçues à Bandar Lampung mercredi 18 septembre, le chef de la salle TNWK M.H.D. Zaidi a déclaré que le succès de l'étude de K. Waikambas était le résultat de la collaboration avec les partenaires du Parc national Waikambas, à savoir Wildlife Conservation et Société indonésienne. Tous deux se sont engagés conjointement à réduire ou à éliminer la menace de la chasse aux animaux sauvages en utilisant des collets avec l'approche modèle Scanning Analysis Response Assessment, SARA, pour une résolution de problèmes de base qui peut aider à identifier et à comprendre les problèmes et à y répondre de manière appropriée. Selon lui, le modèle SARA s'est révélé efficace pour identifier les problèmes et évaluer l'impact des mesures prises. Le prix Hermann Goldstein pour l'excellence en matière de police orientée vers les problèmes est un prix international qui développe le conseil de police orientée vers les problèmes. Le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, MPR, Bambang Susatyo, a déclaré que la mise en œuvre de la politique étrangère indonésienne, à savoir la liberté d'être actif, avait pour résultat que l'Indonésie n'était pas liée par l'idéologie ou la politique d'un pays particulier, y compris des pays superpuissances. Bambang Susatyo à Jakarta mercredi 18 septembre a déclaré concernant la signification d'actifs. L'Indonésie joue un rôle actif dans le développement de la coopération internationale en respectant les autres pays. Ces déclarations ont été faites par Bambang en citant les vues d'A.W. Wijaya, universitaire en relations internationales, a expliqué le sein d'une politique étrangère libre et actif dans la conférence Système politique et problèmes internationaux nationaux contemporains du programme d'études supérieures sur la paix et la résolution des conflits de la Faculté de sécurité nationale de la République d'Indonésie, Université de la Défense Unhan. À cette occasion, Bambang a expliqué qu'il y a 5 objectifs de politique étrangère, à savoir maintenir l'intégrité de l'État, accroître les intérêts économiques, garantir la sécurité nationale, protéger la dignité nationale et renforcer la force. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, Kemenparekraf RI, continue de s'efforcer de présenter les délices culinaires indonésiens au monde international à travers le programme Spice Up the World en Chine. Le député chargé des produits et l'économie créative, Vincentius Jemadu à Tangerang, a déclaré mercredi que dans le but de développer la portée culinaire du pays, son parti avait collaboré avec United Harvest China SA, ou mieux connu sous le nom de Papaton. On dit que la société, en tant que partenaire de co-branding de Wonderful Indonesia, fait depuis des années la promotion constante du tourisme et de délices culinaires indonésiens sur le marché chinois. Il a déclaré que grâce à cette collaboration, on espère que la promotion des délices culinaires indonésiens en Chine pourra être renforcée. Fan San a déclaré que la collaboration existante pourrait introduire diverses destinations touristiques et délices culinaires typiquement indonésien. Cette collaboration présentera des destinations touristiques et culinaires typiquement indonésiennes telles que satay, soto ayam, nasi goreng, rendang et gado-gado en Chine. On espère que cette activité augmentera l'intérêt et l'attrait des touristes chinois pour les produits indonésiens, tant dans le secteur culinaire que touristique. Le commandant du commandement national des opérations aériennes, Pangkop Sudnas, de l'armée nationale indonésienne, TNI, le maréchal de l'air de l'UA, TNI, Teddy Rizali, a discuté des plans de coopération dans le secteur de la défense avec les forces aériennes du Brunei Darussalam et du Timor Oriental, Timor-Leste. Reportage d'Antara mercredi 18 septembre. Teddy en a discuté lors de sa rencontre avec le chef d'état-major des forces de défense du Timor-Leste, Timor-Oriental. Le général de brigade José da Costa Soares et la délégation du Brunei Darussalam, commandant du groupe des opérations de la RBAF, LTCU, Mohamed Hairi Erwandi bin Haji Raya, en marge du Bali International Air Show 2024, qui a eu lieu au Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, mardi 17 septembre. Selon Teddy, la coopération dans le domaine de la défense aérienne entre les pays d'Asie du Sud-Est doit être menée afin de renforcer la stabilité sécuritaire régionale. De plus, cette coopération peut également être utile pour accroître mutuellement la force militaire de chaque pays. Teddy en outre a souligné que ce qui est non moins important, cette coopération pourrait également être utile pour renforcer les relations bilatérales entre les pays. Avec cette activité, Teddy espère que l'armée de l'air indonésienne et les armées des pays d'Asie du Sud-Est pourront collaborer les unes avec les autres pour accroître leurs forces. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre « L'Indonésie et la Bulgarie célèbrent 68 ans des relations diplomatiques dans ces musées historiques ». L'ambassade indonésienne à Sofia célèbre 68 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Bulgarie au Musée national d'histoire, un musée qui retrace le parcours de la nation et de l'État bulgare vers la démocratie. Cité par Antara, l'ambassadeur d'Indonésie en Bulgarie, en Albanie et en Macédoine du Nord, Iwan Bogananta, à travers un communiqué officiel de l'ambassade d'Indonésie à Sofia dimanche 15 septembre, a déclaré que l'occasion était également un élan pour réfléchir et reprojeter des relations diplomatiques plus étroites et concrètes pour les deux communautés. L'ambassadeur Iwan a également déclaré qu'au cours de ces 4 années, à la tête de l'ambassade d'Indonésie en Bulgarie, le commerce total entre l'Indonésie et la Bulgarie et le nombre de touristes bulgares en Indonésie ont augmenté de près de 50%. La Bulgarie a également soutenu l'Indonésie dans diverses nominations à plusieurs postes au sein d'institutions internationales telles que l'OMI, l'OIT et l'UNESCO. L'ambassadeur Iwan Bogananta a également affirmé faire activement écho à l'orientation des programmes du gouvernement indonésien, dont l'un est d'attirer les investissements dans la nouvelle capitale Nusantara, IKN. L'ambassade indonésie à Sofia a facilité la signature d'une lettre d'intérêt d'investissement LOI dans le secteur de l'alimentation et des boissons d'un montant de 50 millions de dollars américains, soit 771 milliards de rupiahs, entre les entrepreneurs bulgares et le ministère indonésien de l'Investissement en 2023. Une autre réalisation diplomatique concrète est qu'à la suite de la visite de travail du ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative en Bulgarie en juin 2023, la Bulgarie a été désignée comme plaque tournante du programme indonésien Spice Up the World pour le marché européen. Cela a ensuite été suivi par la facilitation de la mission de marketing du ministère du Tourisme et de l'Économie créative avec un accord commercial total de 3 millions de dollars américains, soit 46,2 milliards de roupies en novembre 2023. Selon l'ambassadeur Iwan, pour soutenir l'objectif de l'Indonésie dorée 2045, les futures relations bilatérales entre l'Indonésie et la Bulgarie se concentreront sur les industries stratégiques, la technologie et l'éducation. La réception diplomatique de cette année à l'ambassade d'Indonésie à Sofia a réuni plus de 200 invités du gouvernement central, des gouvernements locaux, des hommes d'affaires accomplis, des communautés éducatives et artistiques et de la diaspora indonésienne en Bulgarie. Les invités ont droit à des spectacles de danse de Sumatra occidentale et de Kalimantan occidentale par Pesona Mawar Nusantara, aux cordes de la harpe de Maya Hassan et aux accords du violon d'Iskandar Wijaya. C'est Rita, c'était la clé diplomatique pour ce soir. Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui va commencer avec l'événement du 19 septembre 1945, incident de l'hôtel Yamato. L'incident de l'hôtel Yamato est un événement au cours duquel le drapeau néerlandais rouge, blanc, bleu a été déchiré pour devenir le drapeau indonésien rouge, blanc à l'hôtel Yamato sur Abaya, Java Oriental. L'incident a été déclenché par les Néerlandais qui ont hissé le drapeau rouge blanc-bleu sur le mât de l'hôtel Yamato, même si à cette époque l'Indonésie était déjà indépendante. La levée du drapeau néerlandais a provoqué la colère des habitants de Surabaya. Ils se sont rendus à l'hôtel Yamato et ont démonté le drapeau. Cet incident ne marqua pas la fin de la lutte de l'Indonésie après son indépendance. La lutte continua jusqu'à la bataille de Surabaya le 10 novembre 1945. Passons maintenant à l'événement sur le président Juan Perón a été renversé par l'armée argentine. Juan Perón était un général et homme politique argentin de premier plan du XXe siècle. Il a apporté de nombreux changements importants dans la vie politique de son pays. Il est également connu pour avoir accordé le droit de vote aux femmes. Cependant, il s'est transformé en dictateur et a dirigé un gouvernement autoritaire. Il a changé des institutions du pays afin d'être réélu président et a destitué les juges qui s'opposaient à lui. Le 19 septembre 1955, Juan Perón est renversé par un coup d'État militaire et envoyé en exil. Ses 18 ans d'exil ne diminuent pas son influence sur le peuple. En 1973, Perón est réélu président de l'Argentine pour la troisième fois. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 19 septembre 1985 en tremblement de terre secoue le Mexique. Le Mexique était secoué par un tremblement de terre qui a fait 10 000 morts, 30 000 blessés et des milliers de sans-abri. D'une magnitude de 8,1, il s'agit du tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré dans la région. Le tremblement de terre au Mexique a eu lieu à 400 km à l'ouest de la ville, mais les conditions instables du sol sous la ville ont provoqué une secousse qui a duré 30 minutes. Le fort tremblement de terre au Mexique a également causé des dégâts importants à un certain nombre de bâtiments, notamment un ancien hôtel et un gazoduc brisé, provoquant des incendies et des explosions dans toute la ville. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Rasakan semakin luntur, sungguh aku sungguh tak tahu. Oh, apakah yang membuatmu jadi berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuat
Chajoïtar, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chajoïtar, par le plus souvent, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Publié des règlements de passion, KLHK garantit la protection des combattants Zamrumanto ». Le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, a déclaré que le règlement numéro 10 de 2024 du ministère de l'Environnement et des Forêts vise à être un instrument pour accroître la participation du public et la protection juridique des combattants Zamrumanto contre les actes de représailles. Le directeur général de l'application de la loi GAKUM de KLHK, Rasio Ridosani, a déclaré mardi que le ministre de l'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nurbaya, avait signé le 30 août le règlement numéro 10 de 2024 du ministère de l'Environnement et des Forêts concernant la protection juridique des personnes qui luttent pour le droit à un milieu de vie bon et sain. Il a expliqué que le règlement du ministère de l'Environnement et des Forêts est un règlement d'application commandaté par la loi numéro 32 de 2009 En particulier, l'article 66 qui stipule que toute personne qui lutte pour le droit à un environnement bon et sain ne peut être poursuivie pénalement et ni poursuivie civilement. L'objectif de la promulgation du règlement du ministère de l'Environnement et des Forêts est de garantir aux combattants de l'environnement d'accroître la participation du public, d'accroître la synergie entre les institutions et les efforts de prévention de la pollution et des dommages environnementaux. Ce règlement est également un instrument visant à assurer la protection des combattants environnementaux qui existait auparavant dans les lignes directrices du procureur général numéro 8 de 2022 concernant le traitement des affaires pénales dans le domaine de la protection et de la gestion de l'environnement et le règlement numéro 1 de la Cour suprême de 2023 concernant les lignes directrices pour statuer les affaires environnementales. Les réglementations divisent les catégories qui bénéficient d'une protection dans les activités de lutte pour un environnement bon et sain, à savoir les individus, les groupes de personnes, les universitaires ou les experts, les communautés de droit traditionnel, les organisations environnementales et les entités commerciales. Ils sont protégés contre les activités telles que l'affaiblissement de la lutte et de la participation, assignation à comparaître, les poursuites pénales et les poursuites civiles. Ratio Ridosani a déclaré qu'au cours du processus, les parties qui ont besoin de protection soumettent des documents au ministère de l'Environnement et des Forêts qui seront ensuite vérifiés par l'équipe d'évaluation composée de divers éléments, dont le ministère de l'Environnement et des Forêts, les ministères et institutions concernées, les agents chargés de l'application des lois, les gouvernements locaux, les universitaires et les parties liées. L'équipe elle-même sera composée d'un nombre impair et d'au moins 7 personnes. Il a également souligné que pour accroître l'efficacité de la protection des combattants environnementaux, le ministère de l'Environnement et des Forêts se coordonnera avec les institutions compétentes qui ont le pouvoir de protéger les citoyens, y compris l'Agence de protection des témoins et des victimes, LPSK, la Commission nationale des droits de l'homme et la Commission nationale des femmes, ainsi que la police indonésienne et le bureau du procureur général indonésien. C'est Juritak, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku dan tunggulah aku di sana memecahkan. Khawatir
suka bertanya-tanya. Ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, la fête gâteau traditionnel est toujours présente lors de divers événements de la vie du peuple Batak. Il a une forme pyramidale et est enveloppé dans une feuille de bananier. Les Batak l'appellent la fête. Le la fête est généralement composé de farine de riz, de noix de coco râpée et de sucre de palme râpée. Ce mélange est ensuite développé dans des feuilles de bananier et cuit à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit cuit. À déguster, sa texture est douce avec un goût sucré. Cette cuisine est parfaite pour accompagner un café ou un thé chaud. Ces auditeurs, ce délice typique de la communauté Batak existe en plusieurs variants. La pète est généralement fait à partir de farine de riz, mais il existe aussi du la pète fait à partir de farine de riz gluant et de patates douces violettes. Pour la garniture, il existe également un la pète farci de haricots rouges. Pour les Batak, le la pète n'est pas seulement un plat, car il a une signification profonde. Sa forme pyramidale symbolise la stabilité et la force, ainsi que l'unité et l'intégrité de la famille et de la communauté. Le riz gluant symbolise l'unité et la fraternité et symbolise l'harmonie et la solidarité entre les membres de la communauté Batak. Dans les célébrations traditionnelles Batak, le gâteau la pète est également considéré comme un symbole de prospérité et de chance. Ces rites, le gâteau la pète est généralement servi lors des cérémonies traditionnelles de la communauté Batak. En outre, le gâteau traditionnel est également servi lors d'activités de rassemblement social ou de célébrations de fêtes religieuses telles que Noël et Pâques. Bien que le la pète soit originaire du nord de Sumatra, sa popularité s'est répandue dans diverses régions d'Indonésie, avec des variations et des modifications selon les goûts locaux. Cependant, si vous souhaitez le goûter dans son pays d'origine, vous pouvez vous rendre au Lapo, restaurant Batak, où le gâteau la pète est vendu pour 3000 rupiah. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Sejak semula ku sudah menduga, pasti di sana hatiku berada. Di dekatmu cinta untuk selama-lamanya. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Ku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku sayang, selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu sayang. Takkan ku berpaling, kamu candu sampai kanadi. Oh, oh, oh. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Aku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku sayang, selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu sayang. Takkan ku berpaling, kamu candu sampai kanadi.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Wanagama Nusantara. Vendredi dernier, le président Joko Widodo a déclaré que la forêt de Wanagama Nusantara soutiendrait le développement de la capitale Nusantara ou IKN dans la zone de jungle de la ville B, la zone centrale du centre gouvernemental, la capitale Nusantara. La déclaration de la forêt éducative et de recherche qui sera gérée par l'Université Gadjah Mada a été marquée par la signature d'une charte à Kayu Sukai par le président en présence du chancelier de l'Université Gadjah Mada et des ministres. Après la déclaration de la forêt de Wanagama Nusantara, le président Joko Widodo et ses ministres ont symboliquement participé à la plantation d'arbres et à la libération de plusieurs oiseaux en présence des ministres, du chancelier de l'Université Gadjah Mada, des étudiants, des partenaires et de la communauté autour de IKN. Pengembangan agama Nusantara etang ekosistem interdisipliner de développement forestier éducatif et de recherche qui est une initiative de l'Université Gadjah Mada en collaboration avec l'autorité IKN et le ministère de l'Environnement et des Forêts. Cette forêt est située dans la zone centrale du centre gouvernemental de la capitale indonésienne ou IKN avec une superficie de 621 hectares. Dans un premier temps, il sera développé sur une superficie de 28 hectares. À l'avenir, l'expansion de la superficie totale sera réalisée en procédant à une déforestation basée sur des zones. Il s'agit notamment des zones forestières tropicales, des forêts énergétiques, des forêts destinées aux produits pharmaceutiques et des forêts destinées à l'écotourisme. Le chancelier de l'Université Gadjah Mada, Professeur Dr. Ova Emilia, espère que Wanagama Nusantara soutiendra la vision de IKN en tant que ville forestière. En dehors de cela, il espère également que Wanagama Nusantara deviendra une fenêtre sur le monde tropical avec des programmes principaux comprenant le développement du jeunesse forestier éducatif, le développement de l'Institut pour la vie future, la restauration, le reboisement et la plantation d'enrichissement. L'existence de Wanagama Nusantara fait partie de l'engagement de l'Université Gadjah Mada à soutenir le développement d'IKN en tant que ville durable. En tant que forêt d'éducation et de recherche, la forêt de Wanagama Nusantara est intégrée à diverses disciplines et facultés scientifiques de l'Université Gadjah Mada. On espère que cette forêt pourra devenir un modèle pour la restauration des forêts tropicales humides en régulant l'hydrologie et le microclimat dans IKN et la conservation des espèces végétales indigènes dans les forêts tropicales humides contre une extension à l'avenir. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Nah. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri mengais validasi. Dan aku pun tak hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Silam putra putra.
putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Serta masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, oh ya, sirna.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonjour, bonsoir, Serge de Trisolitar. C'est le temps pour l'émission de magazine musical avec moi, Audrey. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson de Chris Dayanti. Ce chanteur Chris Dayanti, ou KD, a commencé sa carrière de chanteuse après avoir réussi à remporter l'événement international Asia Bagus en 1992. En 1995, Chris Dayanti, ou KD, sort son premier album intitulé Terserah, qui connaît un grand succès à l'époque. N'étant pas complaisant, Chris Dayanti sort un autre album en 1998 intitulé Sayang. Au cours de cet album, Chris Dayanti est également devenu producteur de disques pour la première fois. L'un des singles phares de cet album est la chanson Menghitung Hari, écrite par Melly Goeslaw, auteur, compositeur et chanteuse indonésienne. Menghitung Hari raconte l'histoire d'une femme qui attend après avoir exprimé son amour sans jamais obtenir de réponse ou de certitude. Cependant, cela ne l'a pas fait renoncer à se battre pour son amour. Cette chanson a fait de Chris Dayanti, une chanteuse de plus en plus populaire dans les années 1990. Bonjour, chers, voici la chanson intitulée « Manghitung Hari » chantée par Chris Dayanti. Bonne écoute.
Manghitung Hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada. Jelang cerita, kisah yang panjang, menghitung hari. Padamkan saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diri.
Bonjour, Gétard. C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.